Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio B90 FM pour une émission spéciale sur les migrations. Je m'appelle Lana et je suis accompagnée de Théo.
Bonjour. Voici une émission préparée avec notre classe de 4e 4 du collège Yvon Moranda de Saint-Denis-les-Bourgs. Le collège accueille souvent des élèves migrants et c'est pour ça que nous avons choisi ce thème.
Au programme, deux micro-trottoirs, un réalisé dans la rue et un autre dans notre collège. Deux interviews, une d'un membre de l'association d'amis et une autre sur le professeur de l'UPE2A ainsi que trois papiers réalisés par les élèves.
Vous écoutez Radio B.
On parle beaucoup des migrants dans l'actualité.
Pierre et Ninon, vous faites le point sur les différents termes que l'on peut entendre.
Oui, il est important de préciser certaines définitions. Ninon, c'est quoi un migrant ?
Un migrant est une personne qui se déplace d'un lieu à l'autre pour s'y installer à long terme.
À ne pas confondre avec un réfugié.
Oui, un réfugié, c'est une personne qui a fui son pays parce qu'elle craint pour sa liberté ou sa vie.
Et un demandeur d'asile ?
Un demandeur d'asile est une personne qui dépose une demande d'asile afin de bénéficier du statut de réfugié.
Alors, quelle est la différence avec un émigré ?
Un émigré est une personne qui quitte son pays pour des raisons économiques et qui est allée s'installer dans un autre pays.
Mais alors, qu'est-ce qu'un émigré ?
Un immigré est une personne qui arrive dans un pays étranger au sien pour s'y installer durablement.
Ça fait beaucoup de mots qui se ressemblent mais qui n'ont pas le même sens, sauf d'avoir un rapport avec la migration, avec le déplacement de populations qui passent d'un pays à un autre pour s'y installer durablement.
Maintenant, tout est clair et nous parlerons tous de la même chose avec les bons mots.
Merci à tous les deux pour ces explications.
Lilian, Adam et Mathis sont allés à votre rencontre pour aborder ce sujet.
Que pensez-vous de l'arrivée des migrants à Bourg-en-Bresse ?
Ça m'importe peu parce que à mon âge, hein, j'espère qu'ils s'adapteront bien et puis que moi je sais pas, on sait pas trop quoi en penser, hein, parce que mais pour Bourg, je pense qu'il y a encore la possibilité de les accueillir dignement.
Et ben c'est une bonne chose parce que ces gens-là, il faut les accueillir parce qu'ils sont dans des situations dans leur pays qui sont pas évidentes, donc faut les accueillir.
Eh bien, je les plains parce que malheureusement, beaucoup les rejettent. Et je me dis que s'ils ont migré de leur pays, c'est qu'il y a eu quelque chose. Donc voilà, sont à plaindre.
Ils n'ont peut-être pas le choix.
Il faut bien qu'ils aillent quelque part, mais bon, des fois, ça dérange un peu quand même.
Je sais pas trop. Enfin, combien ils sont ?
Les migrants, il y en a de partout déjà. Il n'y en a pas qu'à Bourg. Je sais pas quoi dire sur tout ça.
Je suis pas contre, mais bon, faut que ça soit encadré, qu'ils puissent vivre normalement.
D'après vous, comment sont accueillis les migrants ?
En France, ils sont bien accueillis par rapport à d'autres pays.
Ouais, c'est en France, ils sont bien accueillis quand même, par rapport à ailleurs.
D'après ce que je vois, pas trop mal.
Si, je crois qu'ils sont à Formule 1. Je pense qu'ils sont dans de bonnes conditions.
Bon, la ville de Bourg-en-Bresse leur trouve quand même des logements, des choses comme ça.
Je pense très rejetée. La population, surtout burgienne, a vraiment peur de l'inconnu. Et puis voilà, on rejette tout ce que l'on ne connaît pas, malheureusement.
Souvent très mal. Mais après, malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde non plus. Donc on est certes une terre d'accueil, mais on peut pas accueillir tout le monde.
Je sais pas. Après, ils sont accueillis par les assos, tout ça. Donc, c'est eux qui les prennent en charge. Donc, nous, après, on sait, dans le fond, on sait pas tout, vraiment tout ce qui se passe. Hein.
Plus ou moins bien. Mais bon, c'est tous des jeunes. Alors, on les aime bien. Un jour, il y aura tellement des vieux qu'on en aura bien besoin.
Que pensez-vous de l'aide que les associations apportent aux migrants ?
Je pense que suivant leurs possibilités, ils font ce qu'ils peuvent, hein, les pauvres, mais je ne sais pas s'il y a suffisamment de dons pour les accueillir aussi dans de bonnes conditions, je ne sais pas.
Ah ça, je trouve ça très bien. De toute façon, toutes les associations, c'est très bien. C'est une bonne cause quand même, parce que ça reste des êtres humains.
Je sais qu'en tout cas, au niveau du foot, ils sont pas mal accompagnés. On essaie de les intégrer par le biais sportif. Voilà, puis il me semble que c'est pas trop mal réussi. Alors, il y en a qui repartent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le droit d'asile, mais voilà, il y en a un certain nombre. Et je trouve que c'est enfin, pour ceux qui sont en tout cas en sport, sont pas trop mal accueillis, puis sont bien suivis. En tout cas, la mairie met les moyens pour soit payer leur licence, soit les aider en tout cas à survivre.
Moi, je crois que c'est pas mal. C'est pas mal parce que si on regarde les migrants et puis nous, Français, bon, je pense qu'il y en a, nous, comme on dit bien, il faut déjà balayer un petit peu devant sa porte avant de... Voilà.
Merci les garçons pour ce micro-trottoir. Mathis et Fabio, bonjour.
Bonjour.
Pour vous, il est essentiel de casser les clichés.
Je ne sais pas si vous avez regardé des informations ces derniers temps.
Oui, ça m'arrive de temps en temps.
Ils parlent des migrants et ils disent que l'arrivée des migrants en France a énormément augmenté ces derniers temps.
Mais pas du tout. Mon père travaille dans une association d'accueil de migrants. Et il m'a dit qu'en 30 ans, l'augmentation de l'arrivée des migrants en France n'est que de 1,2%.
Par contre, j'ai entendu dire que la France était le pays qui accueillait le plus de migrants au monde.
Ça aussi, c'est faux. J'ai vu un article qui disait que les États-Unis sont le pays qui compte le plus de migrants. Ils sont 49,8 millions et la France en accueille 7,9 millions. Donc non, la France n'est pas le pays qui accueille le plus de migrants au monde.
Sinon, à ton avis, il y a plus de migrants hommes ou femmes ?
Bah c'est facile, je pense qu'il y a bien plus d'hommes que de femmes.
Et bah figure-toi que près de la moitié des migrants sont des femmes.
Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'informations sur les migrants circulent. On peut lire par exemple que les migrants sont prioritaires pour des logements sociaux.
Non, les migrants se débrouillent comme nous pour avoir un logement.
Et j'ai même lu certains commentaires qui disent que les migrants volent le travail des Français.
Non, c'est faux. La plupart des demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à travailler, sauf en cas exceptionnel. Donc non, ils ne volent pas le travail des Français.
Et les gens disent qu'ils sont mal éduqués.
Ça veut rien dire ça. Il faut aussi savoir que la grande majorité des migrants viennent de la classe moyenne de leur pays. Ils ont assez d'argent pour payer le passage jusqu'à leur point d'arrivée. Donc ils sont allés à l'école, voire ont même fait des grandes études.
En gros, avant de partager des informations sur les migrants, pensez bien à regarder d'où vient l'information, qui la partage et surtout, posez-vous des questions.
Merci Fabio et Mathis pour ces conseils.
Et si maintenant nous demandions l'avis d'un expert, un membre du DAMI, une association locale qui s'occupe de l'accueil des migrants.
Bonjour Hugo Bouchon-Canque, vous êtes coordonnateur au DAMI. C'est quoi le DAMI ?
Alors le DAMI, c'est le dispositif départemental d'accueil des mineurs isolés étrangers de l'Ain.
Depuis quand votre association existe-t-elle ?
La sauvegarde de l'enfance, qui donc est l'association qui gère le DAMI, existe depuis 75 ans.
Comment aidez-vous les migrants à leur arrivée en France ?
J'ai envie de dire comme on peut. Alors nous, on fait ce qu'on appelle de la mise à l'abri. C'est-à-dire qu'on récupère les jeunes migrants mineurs qui seraient à la rue, on leur donne un toit, à manger, de la vêture. Et au-delà de ça, on essaye de participer à leur insertion. Donc parfois au collège, vous avez dû voir des jeunes qui sont pris en charge chez nous. Également dans tout ce qui est professionnel, avec les apprentissages, également ce qui est culturel, avec des activités, des choses comme ça.
Quel est le profil et l'âge des migrants qui arrivent au DAMI ?
Le profil, c'est qu'ils sont étrangers. Ils peuvent venir de partout, de tous les continents, de toutes les cultures. Et ils ont moins de 18 ans. Les jeunes que nous accueillons ont nécessairement moins de 18 ans pour être pris en charge par nous.
Où logez-vous les migrants ?
On les loge dans un foyer. Ce foyer, il se trouve dans la zone La Chambière. Après, il y a 3 foyers qui prennent en charge les migrants. Il y en a un à Perona, un à Jugerieux et un à La Chambière. Il y a également un foyer pour adultes qui se trouve à Villars-les-Dombes, pas très loin du Parc des Oiseaux.
Où trouvez-vous l'argent pour aider les migrants ?
C'est une bonne question. On est financé par le conseil départemental de l'Ain. Le conseil départemental a dû trouver à un moment donné qu'il y avait un problème pour prendre en charge les migrants. Ils ont demandé qui pouvait s'en occuper. Et donc mon association a choisi de participer à ça.
Combien de bénévoles sont présents dans votre association ?
Alors, là où je travaille au DAMI, il n'y a pas de bénévoles. Il n'y a que des gens qui travaillent pour être payés, donc des salariés. Par contre, dans le foyer pour les adultes, il y a des bénévoles. Il y en a une vingtaine à peu près, je crois.
Comment la commune de Bourg-en-Bresse vous aide-t-elle dans vos actions ?
La commune de Bourg-en-Bresse, c'est assez large. On va dire que pour tout ce qui est culturel, il y a quand même pas mal d'avantages qui nous ont été donnés. On nous a permis, même si notre foyer n'est pas sur Viria même, d'avoir gratuitement accès aux bibliothèques pour tous les jeunes, donc ce qui est très bien. On nous a également permis de participer à des ateliers de théâtre avec la DRAC. Direction régionale des affaires culturelles.
Est-ce que le nombre de migrants augmente ou diminue ces dernières années ?
Il augmente.
En moyenne, combien de temps les migrants restent-ils au sein du DAMI ?
C'est assez variable, ça dépend de l'âge auquel ils arrivent. En fait, ils arrivent mineurs, donc après, à partir de 14 ans, on les prend en charge. À 14 ans, donc vous voyez, ça peut aller jusqu'à 18, donc un an. Parfois, on les garde un petit peu plus longtemps que 18 ans. On demande au département si on peut pas les garder parce qu'on sent que peut-être ça peut être un peu compliqué à 18 ans de se débrouiller tout seul. Donc on demande à ce qu'ils restent un peu plus longtemps, je dirais de un an, parfois moins, jusqu'à 5 ans.
Que deviennent les migrants après que vous les ayez aidés?
Pour certains, on a des nouvelles. On sait qu'ils ont fondé une famille, ils se sont installés, ils ont du travail, ils font leur vie sur le territoire.
Gardez-vous un contact avec les migrants?
Parfois, oui. Après, c'est comme tout. Hein. Il y a des jeunes avec qui on s'entend mieux, d'autres avec qui on s'entend moins. Donc, certains, oui.
Et les enfants de moins de 14 ans, qui les prend en charge?
Alors, quand ils ont moins de 14 ans, ils sont pris en charge dans ce qu'on appelle des MECS. C'est des maisons d'enfants à caractère social. Donc, elles sont plus spécialisées pour la petite enfance, là où nous, on s'occupe un peu plus des adolescents quand même.
Merci à Pierre et Nathan pour cette interview. Brisé, c'est Soukaina. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez envie de nous raconter le parcours d'un migrant?
En lisant un exemplaire de Géoado, nous sommes tombés sur l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Gorban. Il vient d'Afghanistan et il est arrivé en France.
Ah bon? Et il est arrivé où et quand en France?
Il est arrivé en janvier 2010 à Paris, sans foyer et sans parents. Il loge dans des hôtels où il reçoit des cours.
Ah oui, ce qui est marquant dans son histoire, c'est qu'il serait né le 31 novembre, ce qui n'est pas possible. C'est à cause d'une erreur de traduction, ce qui ralentit l'accès à ses nouveaux papiers.
Oui, c'est ça. Heureusement, Gorban a de la ressource. Il apprend le français, passe son bac et devient officiellement français. Puis il fait des stages en laboratoire d'analyse médicale.
En 2016, il cherche sa mère et déclare « Ma mère n'a pas eu le choix de m'abandonner. Un jour, j'irai la retrouver en Afghanistan. »
À l'élection présidentielle de 2017, Gorban vote pour la première fois de sa vie. Il dit qu'il a peur que Marine Le Pen lui retire sa nationalité.
En 2017, il retourne dans son pays d'origine, l'Afghanistan, et il retrouve sa famille. Il est content de ne plus se sentir seul.
Gorban reconnaît qu'il est plus habitué à vivre en France que dans son pays d'origine parce qu'il a vécu 11 ans en France.
Gorban déclare que ses frères et sœurs aident leur père à récolter le pavot. Il dit qu'il ne faudrait pas les faire travailler, qu'il préférerait aller habiter en ville pour que ses frères et sœurs aillent à l'école.
Sa mère a été forcée par les hommes de sa famille à abandonner Gorban. Il dit « Ce n'est pas de sa faute ni de la mienne. C'était notre destin. » Ses parents sont très fiers de lui. Après ce séjour, Gorban décide d'arrêter ses études et de retrouver un travail en France pour aider sa famille.
Radio B, 90 FM.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission spéciale de la 4e quête du collège Yvon Morandin de Saint-Denis-les-Bourgs. Dans notre collège, nous accueillons des élèves migrants. Briseis, Thomas et Théo sont allés récolter leurs témoignages.
Parce que je ne sais pas le français, je n'ai pas beaucoup d'amis, je ne suis pas habituée.
Bah, quand aussi je suis venue ici, c'était très difficile parce que je n'ai pas des amis, je ne parle pas français. Mais maintenant, j'apprends un peu français. Comme ça, j'ai des amis. Voilà. Je fais la boxe. J'entraîne à Rio, la PAP. Et en France, j'ai des combats. Voilà.
L'Italie.
D'Arménie.
Sénégal. Gambie.
Je viens d'Angola.
Je viens du Kosovo.
Pourquoi as-tu quitté ton pays?
Pour le travail de mes parents.
Parce que notre pays, il n'y a pas de travail. Parce que moi, j'ai sorti 2 ans, je n'ai pas travaillé. Mon père, il m'a amené ici, en France.
Parce que école.
Pour problème de ma famille.
Qu'est-ce qui t'a manqué à ton arrivée?
Je manquais toute l'Italie, mes amis, ma maison, ma ville, les climats, parce qu'en Italie, il fait très neige, et ici, non, et la nourriture, les lasagnes, la pizza, tout.
Mes amis, ma ville, tout ça, ma famille, mes grands-parents.
Mes amis, ma famille, ma ville.
Manquer mon père ou ma mère.
Comment vis-tu dans ce nouveau pays ?
Difficile, un peu difficile.
J'ai compris qu'est-ce qu'il dit tout le monde, mais je peux pas répondre, j'ai pas arrivé à répondre.
Un peu difficile, parce que moi, on parle français, pas d'amis.
Ça fait 2 ans.
Je pense un an.
C'est 9 mois. 2 semaines ou 3 semaines.
J'ai fait 3 mois.
C'est fait 3 mois.
Madame Pirez est professeure de la classe UPE2A. C'est une unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants.
Elle a ouvert au collège Yvon Moranda en 2018. Cette interview a été réalisée par Ninon et Lilian.
Que signifie UPE2A ?
Ça signifie unité pédagogique pour élèves allophones arrivants.
Combien d'élèves accueillez-vous en UPE2A ? Comment vous organisez-vous ?
Alors en ce moment, j'ai 15 élèves. Je fonctionne par niveau, donc par groupe de niveau. Donc j'ai le groupe de niveau A0, c'est les débutants. Ensuite A1, donc ils parlent un petit peu. A2, ils se débrouillent. Et B1, ils sont déjà autonomes. Donc ces élèves, toutes les heures changent. Donc les groupes ne sont pas les mêmes. Je prépare un cours pour chaque niveau à chaque fois.
De quel pays sont originaires les migrants ?
Alors c'est assez large. J'ai Arménie, Kosovo, Portugal, Italie, Géorgie, Russie, Sénégal, Angola et Gambie.
Comment sont-ils venus en France ? Avec quels moyens de transport ?
Alors, il y a un petit peu de tout. Les élèves qui sont issus de pays plus éloignés viennent par avion. J'ai des élèves qui sont venus aussi par bus, en voiture. Et un élève qui de Gambie, lui, il a fait du stop. Il est venu en voiture. Il a traversé de la Libye à l'Italie en bateau. Ensuite, il a pris à nouveau une voiture. Et il a pris le train pour arriver en France. Donc, le dernier a eu pas mal de moyens de transport pour arriver jusqu'à nous.
À leur arrivée au collège, comment communiquez-vous avec eux ?
C'est un petit peu compliqué. Comme ils ne parlent pas un mot la plupart du temps, cette année, j'ai beaucoup de sixièmes. Donc, je commence par des gestes. Et j'ai la chance d'avoir dans mes groupes toujours quelqu'un qui parle leur langue maternelle. Donc, ils me servent de traducteur. Jusqu'à ce qu'ensuite, à force d'être dans la cour, à l'école, ils commencent à se débrouiller un petit peu en français. Et là, ils deviennent un peu plus autonomes. Et avec les cours, ils se débrouillent un peu plus.
Que leur apprenez-vous ? Que faites-vous en cours ?
Je leur apprends essentiellement les bases du français, voilà, pour qu'ils puissent se débrouiller. Et ensuite, intégrer leur classe d'origine. Je leur enseigne aussi un petit peu les aspects culturels de notre pays, qui est important pour leur intégration, parce qu'ils viennent de pays étrangers, donc ils ne fonctionnent pas de la même façon. Je les prépare également à un examen de français qui s'appelle le DELF. Donc, selon leur niveau, il y a le DELF A1, le DELF A2 et le DELF B1. Et je les accompagne et je les aide pour la préparation au DNB, au CFG également, et lors de leur rapport de stage qu'ils doivent faire en troisième s'ils sont en troisième.
Ont-ils été bien accueillis par les autres élèves de leur classe ? Et se sont-ils bien entendus avec les autres migrants ?
Oui, généralement, les nouveaux arrivants sont bien accueillis parce que dans cette classe-là, les élèves n'oublient pas d'où ils viennent et ils connaissent très bien les difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants.
Au bout de combien de temps ils commencent à comprendre et à communiquer en français ?
Alors, c'est très relatif, ça dépend de chaque élève et de sa capacité à comprendre et à apprendre. En général, c'est au bout d'un an, ils commencent à être autonomes.
Pourquoi les élèves migrants n'assistent pas aux mêmes cours que les élèves de leur classe ?
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bases de français. Donc ils sont un maximum de temps avec moi en UPE2A, donc c'est le dispositif de français langue étrangère dans le collège. Et lorsqu'ils commencent à être légèrement autonomes, on les inclut de plus en plus dans leur classe ordinaire. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année glissante, ils puissent être définitivement dans leur classe d'origine, dans leur classe ordinaire.
Ont-ils le même alphabet que les Français ? Sinon, quelles sont les différences ?
Alors, pour la russe et la géorgienne, non. Donc, c'est un alphabet différent. Donc, il faut aller sur Google et regarder, parce que là, je ne peux pas expliquer, ça ressemble un peu à des dessins. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil.
Comment faites-vous pour leur apprendre notre alphabet ?
Ils ont déjà des rudiments parce qu'ils viennent tous, ils ont déjà appris l'anglais. Donc l'anglais possède un alphabet latin qui est le même que le nôtre.
Vous avez plutôt commencé à leur apprendre à parler en français ou à écrire en français ?
D'abord l'oral, mais j'accompagne toujours par un peu d'écrit, parce que le français n'est pas une langue phonétique, contrairement à la plupart des langues de ses élèves, et que nous, quand on parle, on écrit des lettres qu'on n'entend pas à l'oral. Donc c'est très confus pour eux, donc j'accompagne toujours l'oral avec l'écrit. Mais j'attache plus d'importance à l'oral, parce que s'ils ne parlent pas bien, ils ne pourront pas écrire correctement.
Merci Ninon et Lilian pour cette interview.
Merci d'avoir écouté notre émission spéciale sur les migrations, réalisée par notre classe de 4e 4 du collège Yvon Moranda. Nous espérons que vous avez maintenant plus d'informations sur le sujet et que vous comprendrez mieux leurs difficultés.
Merci à Radio B,
à nos professeurs,
à toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette émission.
Et encore un grand merci à vous, chères auditrices et auditeurs.
C'était Lana
et Théo avec
Briseïs,
Sukaina,
Ninon,
Pierre,
Iba,
Thomas,
Lilian,
Nathan,
Fabio,
Mathis,
Adam.
Une dernière chose, retrouvez nos émissions sur radio-b.fr dans la rubrique Les émissions, les ateliers de Radio B.
Au revoir. Nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé.